J'ai mis la table il y a quelques instants. Annie Volant qui s'est inspirée d'un éboueur qui dénonce un collègue ivre au volant qui perd son emploi. Puis on parle d'odeur au travail. Comment on gère ça en milieu de travail? Annie Volant, spécialiste en ressources humaines, la présidente du réseau Annie RH. Salut Annie!
Bonjour Valérie!
T'as été inspirée par l'histoire de quelqu'un, mais sûrement que dans ton milieu, t'en as déjà eu des anecdotes relatives à ça, hein?
Ah, il y en a plein, puis... Nous, en ressources humaines, on est souvent interpellés pour ces questions-là, parfois, souvent à raison. Là, des fois, il y a des odeurs qui sont inappropriées. Parfois, à tort. Des fois, les gens vont nous dire, par exemple, quelqu'un ne sent pas comme moi ou ne mange pas des trucs qui sentent comme moi. Mm. Et là, ben, c'est pour sensibiliser les gens au vivre ensemble. En fait, on doit naviguer cette à la fois tellement inconfortable ligne que de parler des odeurs corporelles et autres, et aussi le vivre ensemble. Ça fait partie de la complexité de notre métier.
Oui, oui, trouver la ligne. Alors, gérer les histoires d'odeur au milieu de travail. D'abord, on va commencer par le plus facile, Annie. Que font les entreprises en lien avec les odeurs de lunch?
Les saumons réchauffés dans le micro-ondes et les autres poissons.
Le parmesan.
Le parmesan, oui, c'est ça. Alors, généralement, moi, je trouve que c'est assez simple de gérer ça. Ça passe soit par une politique d'utilisation des micro-ondes ou encore une politique de vivre ensemble. Je trouve que ça gère, somme toute, bien. C'est sûr, l'enjeu principal, là, comme tu le nommes, ce sont les poissons réchauffés et les fromages. Principalement, c'est à ça que ça se résume. Les poissons crus, comme les tartares et les sushis, sont inodores. C'est pas ça qui cause souci. Je trouve qu'en général, les gens sont capables de soit poser la question à leurs collègues, est-ce que mon sandwich aux œufs dérange, ou encore vont simplement s'auto-discipliner par rapport à ça. Mais il reste encore, notamment pour les jeunes entreprises qui n'ont pas passé à travers ces processus, des gens pour qui ça demeure compliqué. Fait qu'une simple politique d'utilisation des micro-ondes devrait pas mal gérer bien des cas par rapport à ça.
Oui, parce que une sandwich aux œufs, quand tu l'as mangé, à un moment donné, ça sent plus. C'est... Qu'est-ce qui reste dans l'ambiance hein, après un passage au micro-ondes ou encore dans la poubelle une fois que tu as jeté quelque chose qui n'est pas ramassé immédiatement? Mais ça, on en reparlera une autre fois. C'est quoi les bonnes pratiques face à un employé qui dégage de mauvaises odeurs? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui dit? On lui dit pas? On prend des moments, des moyens détournés? Qu'est-ce qu'on fait, Annie?
On sent le malaise quand on doit aborder ces situations. C'est tellement malaisant. Il y a des employés qui se sentent le courage d'aller voir un collègue pour le lui dire. Je vous dirais bravo, mais en général, on se retourne vers les patrons. On dit c'est au boss de mettre leur culotte de boss puis d'aborder ces situations-là avec l'employé en cause. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut que quelqu'un le lui dise. Ça ne se réglera pas tout seul. Puis en attendant, il y a toute une équipe de travail autour qui souffre. Alors, c'est pour ça qu'on va vouloir que le patron aborde la situation. Je sais, là, je dis ça, puis les gens font comme « il fallait, je me retrouve dans cette situation ». Moi, je vous dirais, on voit ça plusieurs fois dans une carrière en ressources humaines. C'est jamais le fun, mais honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Il s'agit d'une conversation qui est assez droite au point, droite au but, là, qui va aborder les situations. Simplement, nommer les choses comme elles le sont. Généralement, l'employé qui est odorant va prendre le message puis va dire « hey, merci de me l'avoir rappelé ». Faut mettre en contexte que l'employé est aussi mal à l'aise que le patron là-dedans, donc ça ne fait pas une longue conversation. Parfois, il y a des patrons qui sont surpris. Ils sont surpris de la réaction des employés. Des employés, parfois, qui disent « Ben voyons, de qu'est-ce que tu me dis là? » Puis ça ne doit pas être moi. Je pense que tu te trompes, boss. Puis là, les employés vont dire « Ben moi, tu sais, je change mes vêtements, je prends ma douche tous les jours. Pourquoi tu me dis ça? » Puis ils oublient des trucs comme « Des fois, ce sont des vêtements... » sont restés dans une case au travail, les vêtements utilisés au travail qui ne sont pas suffisamment lavés fréquemment. Mm-hmm. Là, ils pensent juste à eux. Ou encore, des fois, ce sont des changements de médication qui peuvent provoquer des odeurs. Puis parfois, ce sont les fibres des vêtements eux-mêmes. Donc, des fois, les gestionnaires sont un peu surpris de devoir aller jusqu'à là dans la conversation, mais parfois, c'est le cas. Il faut se rendre là. Mais je trouve que les gens ont vu un grand malaise de faire ça, mais ultimement, ça se règle généralement assez rapidement.
Ceux qui vont au gym aussi sur l'heure du lunch, là, puis qui pensent qu'ils ne suent pas.
Oui, c'est ça. C'est un bon exemple. Alors, ça prend quelqu'un pour le dire. Fait que ça va être les patrons.
On a entendu parler de ça, de Service Canada qui demande aux citoyens d'éviter de porter des produits parfumés. Est-ce que ça arrive souvent, ça?
Ouais, là, Valérie, on n'est plus dans les mauvaises odeurs, on est dans les odeurs tout court. les odeurs de shampoing, de crème pour le corps, incluant les odeurs de déodorant, désodorisant, les odeurs également de savon pour la lessive, là, les vêtements. Alors, ça, c'était particulier, cette histoire-là, parce que moi, je te dirais, en général, ce que j'observe, les gens qui vivent de l'hypersensibilité environnementale, c'est environ 3 % là, des Canadiens qui sont ainsi incommodés par des odeurs. Bien, typiquement, ils vont se retourner vers leur équipe de travail, puis sans rien imposer à personne, on va sensibiliser les collègues, puis généralement, les choses se règlent assez aisément. Tu sais, Valérie, si quelqu'un dit, le détergent que tu utilises pour tes vêtements, tu sais, ça m'incommode beaucoup, est-ce que ça te dérangerait de changer de marque? Ah, habituellement, c'est pas la fin du monde, là. Les gens vont tempérer, puis c'est tout. Mais ce qu'il y avait de spécial avec Service Canada, c'est qu'ils demandaient, bon, à eux, c'est à leurs clients, donc ce sont aux citoyens canadiens, de ne pas porter ces produits-là avant d'aller chercher, par exemple, leur passeport. Mais ça, c'est rare qu'on impose aux clients de se conformer à ces règles-là. Ouais. Il faut bien s'entendre, là, les clients qui ne portent pas de désodorisant, de déodorant, de shampoing, parce qu'on ouvre la porte à d'autres problèmes.
Ça va sentir, mais d'autres choses.
Ben, c'est ça qui se passe.
Puis, qu'est-ce que tu recommandes aux employés qui sont très sensibles aux odeurs? Je ne veux pas nommer personne, mais Valérie Ferland est bien fatigante avec ça.
Ah oui, tu es sensible. Fais-tu partie du 3 % de la population?
Ben, je ne sais pas c'est quoi le niveau. Je ne sais pas si je me qualifie, mais je suis bien fatigante.
Alors, il y a des gens pour qui c'est vraiment un enjeu, là. Les gens qui souffrent d'hypersensibilité environnementale, puis eux, vraiment, c'est contraignant pour eux. Moi, ce que j'observe, là, c'est qu'en dépit de toutes les bonnes volontés du monde, ces gens-là, je les sens éternellement malheureux lorsqu'ils se dédient à une carrière en service à la clientèle. Ce qui se passe, Valérie, c'est qu'on n'est jamais capable d'empêcher toutes ces odeurs, là, comme on disait tantôt, mm-hmm. Les shampoings, les savons pour la lessive et compagnie. Il finit toujours par y avoir des odeurs, même si les gens ne portent pas de parfum, par exemple. Alors, moi, ce que je vois, c'est que ces gens-là sont plus heureux puis plus confortables lorsqu'ils font un métier qui leur permet de ne pas voir beaucoup de monde comme en service à la clientèle. C'est ça. On ne peut jamais tout empêcher, ces odeurs.
Oui, puis ben c'est sûr qu'on préfère celles qui sentent le propre aux autres. Puis tiens, en terminant, là, il s'est passé quoi avec les boueurs qui a dénoncé son collègue ivre au volant? Il a perdu son emploi?
Hey, ça, c'est toute une histoire, Valérie. Moi, au début, quand j'ai lu le grand titre, ça laissait croire, comme tu le nommes, que la personne avait perdu son emploi parce qu'elle avait dénoncé son collègue ivre au volant d'un camion pour les vidanges. On s'entend, là, c'est pas une trottinette, imagine, tu sais. Il y a tout là-dedans, là, un acte criminel de conduire avec les facultés affaiblies, un camion de vidange, puis aussi des enjeux de santé et sécurité au travail pour le collègue derrière ça. Donc, toujours est-il, quand on voit plus en profondeur, on comprend qu'effectivement, l'employé a perdu son emploi, mais pas à cause qu'il avait dénoncé son collègue, mais bien dans le cadre de l'enquête suite à sa divulgation. Il s'est auto-incriminé et a nommé que lui-même avait travailler avec les facultés affaiblies. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'il avait perdu son emploi. Mais toujours est-il, moi, à la lecture de ce cas-là, mes cheveux me sont redressés sur la tête parce que Valérie, l'employé, disait, là, des fois, il y a l'ours qui a vu l'ours qui a vu le... Je ne sais pas à quel point tout ça nous est relaté avec exactitude, mais je comprenais que l'employé disait avoir contacté son employeur, qui est une entreprise ontarienne, au début de son chiffre de travail, pour nommer là, son insécurité par rapport à son collègue qui semblait avec des odeurs de boisson puis qui semblait ivre. Puis son employeur lui aurait dit, c'est pas grave, va travailler pareil, on n'a pas d'autres options, fait que va travailler pareil. Hey Valérie, tu comprends?
Ça n'a pas de sens.
Les cheveux sur la tête. Ben oui, c'est ça, exactement, ça n'a pas de bon sens. On peut pas, tu peux pas mettre un employé dans cette situation-là, tu peux pas mettre évidemment la population aussi. Moi, j'espère que la CNESST entende ou est vent de ce cas, puis peut-être ça leur tente d'aller faire une petite visite surprise, parce que tu peux pas demander, ça peut pas être géré de cette façon-là. Fait que ça, je trouvais ça un peu terrible de voir, d'être informé de ce cas-là.
Ça sent bon pour qu'on se reparle la semaine prochaine, Annie?
Ça sent très bon, ça, Valérie.
Annie Bollard, qui est la présidente du réseau Annie RH et qui est l'auteur du livre « Le problème, c'est le boss, enfin, je pense ».